Alors, un discours d'une quinzaine de minutes du président français Emmanuel Macron, avec des mesures concrètes quand même, ouais. Là, c'est-à-dire la hausse de l'équivalent du salaire minimum, temps supplémentaire sans impôts. Et on le voit ce matin, les gilets jaunes peut-être perdent un peu d'intensité, mais il y a une majorité de Français qui considèrent que c'est pas assez pour calmer la grogne.
C'est un remarquable discours. Moi, je l'ai écouté. Il y a quelque chose de fascinant dans les discours des présidents français. Ils sont rédigés avec une exactitude dans les mots. C'est le mot précis, le rythme de la phrase. C'est vraiment de toute beauté. Là. C'est l'artiste qui parle en moi. Oui. Mais en même temps, il y avait quelque chose qui était quand même, comment dire, une façon pour Macron de s'exprimer qui n'était pas condescendante, qui avait l'air d'être sincère et qui répondait en grande partie à plusieurs des demandes principales. Tu les as mentionnées, je ne reviendrai pas là-dessus, quoique beaucoup de gens reviennent sur chacune des mesures pour la détailler puis dire « Oui, mais attendez, cette mesure-là, quand on l'applique, il y a des gens qui sont oubliés, puis qui est-ce qui va les payer? » Bref, il y a toutes sortes de critiques sur les mesures. Mais grosso modo, quand on dit « On va investir », on va retourner 10 milliards d'argent public qui vient à la fois de l'État essentiellement, mais évidemment, l'État est financé par les impôts des gens, mais qui retourne aux citoyens les plus défavorisés, donc les retraités, les gens qui ont le salaire minimum, ceux qui font des heures supplémentaires, donc qui améliorent 10 milliards, même répartis sur le nombre de Français, c'est une amélioration réelle, puis c'est une réponse à leurs demandes. Après, j'écoutais les commentaires, puis je voyais bien que c'était insuffisant. Et là, la question qui se pose, c'est que va-t-il se passer? Peut-il aller plus loin? Il y a le sentiment, quand t'écoutes les gens, les gilets jaunes, qu'on veut que Macron démissionne. Et je me demande s'il va pouvoir faire l'économie de sa propre démission. Parce que là, ce qui est en train de se passer, je crois, c'est un clivage à l'intérieur du mouvement des gilets jaunes. On le sait, il y a des extrêmes, il y a des casseurs, il y a des gens qui viennent de la gauche, il y a des gens qui viennent de la droite. Et les partis de gauche et de droite, je crois, sont en train de regagner une partie des gilets jaunes. Il reste au milieu un grand nombre de citoyens plus modérés et c'est là que ça va se jouer. Est-ce que ces citoyens-là, à l'approche de Noël, vont vouloir continuer? Ce que j'entendais hier, c'est que le mouvement allait continuer.
Tu vois, hein, ça dépend toujours de quel point de vue on se place. Ça dépend. Quand on regarde un discours comme ça, on a tous nos a priori, nos subjectivités. Toi, tu as trouvé ça impressionnant. Moi, j'ai trouvé qu'il jouait le rôle d'un président contrit. J'ai trouvé que M. Macron, je ne veux pas dire que je jouais à comédie, mais je me demandais si c'était de l'humilité véritable. Parce que là, on a ce président-là qui a l'air à regretter certains gestes, certaines paroles qu'il a posées. Mais écoute, il n'est pas là depuis 10 ans. Il est là depuis même pas 2 ans. Ça va faire 18 mois. 18 mois. Donc, est-ce qu'il a parlé de ces enjeux-là qui ont poussé des gens à la rue, dans la rue pour manifester pendant la campagne? Pas tellement. Est-ce qu'il a gouverné en ce sens-là depuis 18 mois? Pas tellement. Et là, soudainement, il aurait vu la lumière. Moi, je pense qu'il a bien plus peur que les institutions s'affaiblissent. Je pense qu'il a bien plus peur d'être poussé à la démission, en effet, quoi qu'on n'en ait pas là, je pense. Et ce qu'il a fait hier, à mon sens, c'est un classique de la gestion de crise politique. C'est-à-dire que tu jettes du lest, tu donnes un petit peu, tu donnes des miettes. On l'a vu, écoute, on l'a vu au Canada. Pierre Trudeau, 1980, référendum approche. Qu'est-ce qu'il dit? Nous, les députés du Québec, on va mettre nos sièges en jeu. On va faire une réforme politique dans ce pays-là pour répondre aux aspirations du Québec. Il n'y a rien arrivé de ça. Après ça.
Oui, il a rapatrié la Constitution.
Sans le consentement du Québec.
Oui, mais...
Il avait promis des changements.
Puis il l'a rapatrié.
Voilà.
La Charte des droits et libertés, ça date de...
Bon. Quand tu as eu les manifs des carrés rouges, même affaire, le gouvernement Charest, petit à petit, a jeté du lest. Et tu vois ça depuis toujours, partout, des gouvernements qui jettent un petit peu de concessions quand la rue se fâche, quand il y a une grande grogne politique. Donc,
miettes alors que nous, le peuple, on veut la baguette.
Quelle belle phrase, ça va rester. Sous les pavés, quoi? En 68, je ne me rappelle pas quoi. Là. Mais il y a des causes profondes. On peut rire des gilets jaunes. On peut dire qu'ils sont désorganisés. On peut dire qu'il y a des demandes qui sont saugrenues. On peut dire que c'est l'extrême droite, l'extrême gauche. Reste que un peu partout en Occident et en France aussi, il y a des inégalités. Et tu sais, tu payes tes impôts sur ton temps supplémentaire, mettons, puis là, tu trouves ton magazine français, puis tu vois que le capitaine d'entreprise X ou le ministre Y, ben il est incorporé à Monaco. Puis lui, il n'en paye pas d'impôts sur son jet, puis il n'en paye pas d'impôts sur ses actions. Et peut-être que tu as envie d'aller casser des vitrines. Ça se peut.
Ouais.
Ça se peut.
T'as pas tort, quand tu dis ça. Effectivement, il y a une grogne qui est plus profonde que les promesses que Macron, les réponses que Macron a apportées. Mais là, on tombe dans quelque chose qui est autre. Et sans être un communiste, t'es obligé de dire que ce qui est remis en cause profondément, c'est une répartition de la richesse. Pour aller vers une meilleure répartition de la richesse, là, tu commences à jouer avec la structure même de développement d'un pays. Parce que, et ça, c'était frappant hier, il disait, pourquoi vous avez pas rétabli la taxe sur les grandes fortunes. Et là, il y avait des ministres qui disait, écoutez, c'est, à un moment donné, c'est contre-productif. Et c'est très important, ça. Si on taxe trop les gens qui ont beaucoup d'argent, ils vont quitter. Si on taxe trop les grandes corporations, elles vont cesser d'investir, elles vont délocaliser, elles vont quitter. Parce qu'on est pris dans une logique du capital qui doit absolument générer des profits. Et c'est ça, la revendication profonde des gens, c'est de dire, écoutez, cette structure-là qu'on appelle de l'économie libérale et du néolibéralisme, de l'économie mondialisée, fait de nous, de plus en plus nombreux, fait de nous des pauvres, des gens qui n'arrivons pas à boucler nos fins de mois. Et si tu t'attaques à ça, là, tu t'attaques à une révolution pas seulement sociale, ce qui est en train de se passer en France, mais tu dois t'attaquer à une révolution économique.
Il y a un mot qui a été prononcé par Macron hier qui, moi, je trouve, est plus important que ce que je vois dans la couverture de presse. Là. Il a parlé d'immigration.
À la fin, oui.
Ouais. Et c'est un autre enjeu majeur, parce qu'au-delà des revendications économiques, là, et puis on peut les comprendre, là, des gens qui ont de la difficulté à boucler le budget, il y a toute la question de l'immigration en France. La France signe le pacte de Marrakech. La France a jusqu'ici montré une très grande ouverture. Et là, on connaît les clashs, puis comment c'est récupéré, notamment par la droite en France. Parce que les gilets jaunes, là, oui, c'est des questions économiques. Il y a des questions d'identité qui ont été soulevées. Il y a des questions d'immigration, puis d'insécurité, puis de... Tu sais, bon, je vais parler de ça avec Fabrice. C'est pas anodin, là. C'est une confrontation sur la vision de l'État, sur les changements climatiques, sur l'immigration, puis sur le partage de la richesse.
Tout à fait. C'est pour ça que tout le monde s'inquiète pour qu'on suit ça avec autant de passion, parce que ça peut facilement dégénérer. L'immigration peut être diabolisée d'une façon monstrueuse. La lutte contre le réchauffement climatique peut devenir comme ce dont personne ne veut, parce que ça te menace dans ta vie quotidienne puis dans ta fin de mois. Il y a un grand danger que cette anarchie-là, si les institutions s'affaiblissent trop, ouvre la porte à ce qu'on a vu ailleurs, une droite inquiétante.
Juste revenir brièvement, tu disais, bon, à un moment donné, ça devient contre-productif de taxer. Puis
c'est eux qui disaient ça.
Oui, non, en effet. Mais il y a quelque chose là-dedans qui ramène à la base de la politique. T'es en politique pour améliorer le sort du monde. Mais je pense que quand t'es Emmanuel Macron, je pense que quand t'es dans l'élite politique française et que t'es dans la liste, disons, en France, essayer de devenir président, c'est une job à vie. Là. Il y en a qui ont essayé toute leur vie. Quand t'es dans ces sphères-là, là, ben, le riche industriel qui veut pas que sa fortune soit taxée, t'es probablement plus proche de lui. T'es dans le même country club que lui, que le gars qui manifeste sur un rond-point en France. Et ça, je comprends qu'à un moment donné, tu te dis, on peut pas faire ça, ça devient contre-productif. Je comprends. Le gars qui te raconte que c'est contre-productif, tu prends ta douche avec lui au country club après la game de squash. Je veux dire, tu prends pas ta douche au country club avec le gilet jaune, parce que le gilet jaune, il est pas au country club.
Ouais, je suis d'accord, mais là,
c'est ce qu'on appelle une capture cognitive.
Ouais, mais là, ça veut dire, bon, c'est Louis XVI, là, puis allons-y, là, c'est ce dont tu parles, c'est une révolution réelle, puis je suis pas opposé à ça, sauf que ça s'est déjà produit et ça va se produire. Actuellement, le modèle, c'est que au-delà du chum avec qui tu prends ta douche, puis qui est bien riche, puis qui va t'inviter chez eux dans son château durant l'été, il y a aussi une structure structure qui s'appelle un système néolibéral basé sur l'accumulation du capital puis le profit. Puis ça, si tu veux changer ça, il y a les communistes qui ont essayé de le changer, il y a la Chine qui a essayé de le changer, il y a pas personne qui a trouvé encore un modèle qui réussit. Mais quand même, c'est évident que si tu sors pas de ce modèle économique-là, tu vas toujours avoir une élite qui va opprimer de plus en plus de gens. Ça, c'est la réalité. Fait que j'en suis pour la révolution, mais il faut savoir de quelle révolution on parle.
Boy!
J'ai rien
oui, monsieur.
Je pensais pas que tu pourrais défendre avec autant de passion et de vigueur...
Le grand capital.
Contre le communisme.
Non, non, je fais une critique acerbe du grand
oui,
capital.
Oui.
Mais je n'ai pas de solution à proposer.
Tu n'arrives pas avec
tout.
L'offre communiste.
Ce modèle-là a connu, disons, certaines
ratées. Parce que ce modèle-là, il y avait une petite gang aussi.
Il y avait une petite gang qui a aussi utilisé le communisme. Puis la même chose avec la Chine de Mao. Mais honnêtement, là, c'est la question qui se pose. Partout en Occident, puis même en Amérique, Trump est en train de revenir vers un modèle de capitalisme extrêmement protectionniste, fermé sur lui-même. Penses-tu qu'il n'y a pas des gens qui vont souffrir de ce modèle-là? Ils sont de plus en plus nombreux. Hein? Mais c'est ça, la réalité.
Gardez-en pour demain.
Oui.
Gardez-en
okay.
pour
on
demain.
En reparle. On en reparle.
Merci. Il est 8h50. L'autoroute 13.